Bonjour à toutes et tous pour un nouveau numéro de Sans Transition, l'émission des citoyens et des citoyennes engagés en partenariat avec le magazine papier Sans Transition Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Souhir Soussou qui est microbiologiste et qui est spécialiste des sols et de la santé des sols, qui est lié au laboratoire des symbioses tropicales et méditerranéennes de Montpellier et présidente de la start-up Fertilineur. Alors bonjour Souhir Soussou.
Bonjour.
Alors vous êtes spécialiste des sols, je l'ai dit, et de leur santé, de la microbiologie des sols, donc de la vie microbienne en fait, hein, des sols. Vous travaillez sur la capacité de régénérer des sols pollués ou abîmés via l'alliance, ou alors on parle de symbiose, via la symbiose entre les plantes et les micro-organismes.
Exactement.
Alors moi je vous ai rencontré... pour Sans Transition Magazine dans votre laboratoire, hein, en compagnie du professeur Jean-Claude Écléyer-Marel. Et vous m'avez montré comment est-ce que vous réanimiez des sols détruits, abîmés. Et je dois dire que c'est assez bluffant, assez impressionnant le résultat. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez me présenter le laboratoire des symbioses tropicales et méditerranéennes en quelques mots et,
D'accord. Donc, le laboratoire des symbioses tropicales et méditerranéennes, il est basé sur le campus international de Bayargues, ici à Montpellier.
Oui.
Donc, c'est une unité mixte de recherche où il y a plusieurs institutions, entre autres l'IRD, l'INRA,
oui.
Le CIRAD, l'Université de Montpellier et SUPAGRO. Donc, c'est un laboratoire qui est sous la direction de professeur Robin Dupont-Noir.
Oui.
Et qui est spécialiste en symbiose, en interaction plantes-micro-organismes pour au service en fait de la diversité au niveau du sol et la vie et la réhabilitation aussi entre autres, donc des écosystèmes.
D'accord. Très bien. Donc pas uniquement des sols, hein. Le laboratoire travaille pas uniquement
non,
sur cette question
pas,
des
pas,
sols.
Pas seulement sur les sols, c'est vraiment des mécanismes aussi qui se déroulent dans le végétal,
oui.
Mais aussi au niveau du micro-organisme en lui-même.
Alors par contre, vous avez travaillé, vous avez fait votre thèse hein, sur les sols et plus particulièrement sur ce qu'on appelle la symbiose, hein, c'est ça, entre micro-organismes des sols et puis les plantes, certaines plantes. Alors, qu'est-ce que c'est de la symbiose ?
Exactement. Donc, en fait, moi, quand je suis arrivée à ce laboratoire, donc, j'ai réalisé mon master 2 et ensuite, j'ai enchaîné avec la thèse pour tout ce qui est études, interactions, plantes, micro-organismes qui ont un intérêt dans la réhabilitation ou, entre autres, la phytostabilisation des milieux anthropisés.
C'est-à-dire des milieux qui ont reçu une pression des activités humaines, en gros.
Exactement. Ouais. Et le cas, en fait, des sites d'études, c'était vraiment une ancienne mine.
Oui.
Et le but, c'était vraiment de sélectionner les végétaux qui sont plus adaptés à ces conditions extrêmes, sont en fait la pollution, mais aussi de travailler le sol en sélectionnant les micro-organismes qui sont aussi naturellement présents.
Qui sont naturellement présents. C'est-à-dire que les sols sont pollués par des métaux, l'extraction de ces métaux, et il y a encore des micro-organismes
Exactement,
présents.
Exactement, oui. En fait, c'est vrai, quand on arrive à ce type de sol, visuellement, on ne voit pas grand-chose.
Oui.
Mais en analysant le substrat, donc au sein du laboratoire, on arrive toujours à trouver une richesse qui, certes, en fait, on va dire, elle n'est pas très présente, mais qui existe.
Oui.
Donc, c'est pour cela, vient l'intérêt d'étudier au laboratoire pour remettre en valeur tout ce qui est présent dans le sol.
Donc, la vie qui continue malgré tout à exister dans ces sols.
Oui.
Donc, oui, alors, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard, mais du coup, voilà, vous avez développé une expertise, on va dire, sur cette question des sols et sur leur régénération. Et vous avez monté une entreprise, une start-up qui s'appelle Fertilinov et qui a bientôt un an, hein, c'est ça?
Exactement, elle va fêter le mois prochain un an.
Bon. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous la présenter un petit peu, cette start-up, à qui elle s'adresse?
Alors, Fertilinov Environnement, c'est une jeune start-up, comme vous venez de le dire. Elle a été créée en avril 2016. Donc, elle est incubée à Agrovallo Méditerranée.
Oui.
C'est un incubateur de jeunes entreprises innovantes, basé sur SUPAGRO, ici à Montpellier. et accueillie au sein du laboratoire des symbioses tropicales et méditerranéennes dans la plateforme Transfert Innovation, qui est une cellule pour accueillir les jeunes entreprises et les accompagner dans leur recherche et développement pour tout ce qui est valorisation de diversité microbienne du sol.
D'accord.
Donc Fertilinov Environnement, qu'est-ce qu'elle propose exactement? C'est une expertise au niveau du sol.
Oui.
Pour donc, la mise en place d'un sol ou la reconstruction d'un sol fertile favorable à la croissance des plantes au niveau des milieux qui ont été perturbés par l'activité humaine.
Donc ça peut être des sols pollués, des sols dégradés, lessivés,
exactement, je sais pas. Exactement. Donc en fait, il y a entre autres les sols pollués ou extrêmement pollués, les friches industrielles.
Oui.
Mais on peut aussi trouver au niveau du milieu urbain, périurbain, les carrières comme on voit en fait au niveau de la massif en fait, centrale ou même
oui.
ici au niveau de la Méditerranée.
Oui.
Donc tout ce qui est site d'extraction de granulats. Ensuite, en fait, c'est la dégradation, elle peut être aussi liée à tout ce qui est salinisation, érosion.
Oui.
Donc voilà, il y a plusieurs sortes
de dégradation. Et est-ce que ça peut être aussi des sols agricoles qui ont été surexploités, par exemple? On peut l'imaginer.
Oui, exactement. Oui, oui. En fait, même donc il y a l'autre cas de, on va dire de figure, c'est les sols agricoles qui ont reçu de fortes, par exemple, traitements chimiques qui ont été pollués du coup. Ben, le but d'intervenir dans ce type de sol, c'est d'utiliser et sélectionner des végétaux avec leurs micro-organismes
oui.
pour remettre en fait une dynamique et une vie au niveau de ces sols et pouvoir donc les réutiliser d'une façon agricole plus saine.
D'accord. Donc, vos clients potentiels, ça peut être des collectivités, mais ça peut être des entreprises également qui sont installées sur des sols, des sites un peu pollués, ou ça pourrait être, imaginons, des exploitants agricoles qui veulent remettre en état leur sol, quoi.
Oui, exactement. Ouais. Il y a aussi l'autre point, c'est pour les agriculteurs aussi qui ont besoin, par exemple, d'une fertilisation du sol,
oui.
sans qu'ils soient vraiment en fait pollués. Dans ce cas-là, il y a vraiment en fait l'expertise de micro-organismes, donc de microbiologistes, qui vient donner on va dire un apport naturel de fertilisant
oui.
pour réactiver et apporter des éléments minéraux aux plantes.
Donc améliorer les sols. Et je tiens à signaler que ce sont des méthodes écologiques, on va dire, naturelles.
Exactement.
On n'est pas sur des intrants chimiques. Voilà.
Oui, pas du tout.
Oui, donc ça c'est important de le souligner. Donc à quoi ressemblent les sols sur lesquels vous intervenez en général? C'est des sols où il y a presque plus de vie microbienne, on l'a vu. Alors mais il existe encore une vie, mais ils ont été malmenés ces sols, c'est ça hein?
Exactement, oui. Donc aujourd'hui en France, il y a beaucoup en fait de sites qui sont, on va dire, perturbés à cause des activités de l'homme.
Oui.
Donc, je l'ai cité tout à l'heure, donc, il y a les sites et sols pollués, les carrières, milieux urbains, périurbains. Et tout ça, en fait, c'était lié vraiment aux activités, par exemple, agricoles ou bien pour la construction, pour le déboisement, pour le surpâturage. Et toutes ces activités ont engendré une dégradation, malheureusement, des sols.
C'est-à-dire dégradation, qu'est-ce que vous entendez par dégradation?
Donc une dégradation de sol, c'est une évolution du sol qui est passé d'un état, donc on va dire, végétalisé,
oui.
à une diminution, une baisse de diversité végétale et microbienne,
oui.
qui provoque une disparition totale ou très importante des végétaux.
Donc en fait, plus rien ne pousse sur
cette
salle.
Exactement.
Effectivement, moi j'ai vu des photos que vous m'avez montrées. Puis en laboratoire, vous avez des échantillons aussi hein, de substrat
oui.
Où il n'y a plus aucune végétation en fait dessus. Pourquoi? Parce que la végétation ne peut plus trouver de nutriments
Exactement.
Pour pousser.
Exactement. En fait, si on prend l'exemple de sites fortement pollués, par exemple, là il y a la contrainte métaux.
Oui.
Donc les métaux ont une très forte teneur de présence dans le sol, empêche l'installation naturelle des végétaux, mais aussi des micro-organismes.
Oui.
Et dans ce cas-là, donc, même si une graine arrive au niveau de ce site, elle a du mal à se développer elle-même toute seule.
Oui, d'accord.
Donc sans intervention pour corriger ce sol, il est très difficile, pour éviter le mot impossible, qu'on arrive à avoir une couverture végétale au niveau de ces sites.
Alors c'est pour ça que quand on voit des sites d'anciennes mines, on voit qu'il n'y a rien, qui pousse à ces endroits-là, sur les carrières aussi, hein, ou très peu, quoi, quelques végétaux par-ci par-là, quoi.
Exactement.
Mais alors du coup, pour refaire venir, on va dire, la végétation, il faut préparer ces sols en amont. Comment est-ce que vous y prenez ?
Alors en fait, le but c'est quand même considérer le sol, en fait, le prendre et le considérer comme un site et sol vivant, oui, même si il est très pauvre. Et l'étape donc majeure, quand même, en fait, passe par des analyses au laboratoire.
Oui.
Donc vient, on va dire, la phase diagnostique. C'est vraiment ensuite à une visite du site et un dialogue avec les commanditaires. De déterminer l'état initial de ces sols, faire une analyse pour voir ce qui est présent naturellement.
Oui.
Et après, donc, au sein du laboratoire, faire des analyses physico-chimiques pour détecter l'anomalie, du coup, en fait, d'où vient l'absence de végétation, et ensuite le corriger et pour pouvoir proposer des itinéraires techniques.
D'accord. Très bien. Bah alors, on verra ensuite dans la deuxième partie de l'émission comment est-ce que on arrive à refaire pousser ces plantes sur cette base. Merci Souir Soussou. On se retrouve
merci.
Après une petite pause musicale.
Commentaire. Le cri de la terre, como callar, el grito de la tierra, tapamos, enterramos, resuena, a lo lejos, resuena. Dans ce courant, je ne peux rien faire. Salto del barco, estar sola en el mar. En esta corriente no puedo hacer nada. Être seul en mer, la mer, ma mer, la tierra madre, la pachamama. Le cri de la terre. Oh,
Rebonjour pour un nouveau numéro de Sans Transition. Voilà, je suis de retour avec Souir Soussou, donc en studio, qui est microbiologiste et qui est spécialiste des sols et qui est aussi présidente de la start-up Fertilinov, qui a pour but de régénérer des sols qui sont abîmés, voire très abîmés. Alors, pour justement régénérer ces sols, on était en train d'en parler juste avant la pause musicale, vous utilisez des micro-organismes du sol qui sont encore présents dans ces sols très abîmés, que vous allez du coup isoler, vous allez en faire une culture, vous allez... Comment est-ce que ça fonctionne? Et puis ensuite, vous allez les associer à des plantes. Hein.
Exactement. Voilà. Donc en fait, le but, c'est de partir de la richesse qui est naturellement présente dans le sol, même s'il est très pauvre. Et au laboratoire, on passe par des phases donc, d'isolement pour identifier ce qui est présent et après les multiplier avant de les remettre dans des sols en les associant avec des végétaux.
Alors ces végétaux, ils ne sont pas choisis au hasard.
Exactement.
Bien sûr.
Donc en fait, il ne s'agit pas d'utiliser un pois ou un trèfle. Donc le but, c'est quand même bien choisir le végétal qui sera aussi adapté à ces conditions du site.
Oui.
Et après, donc privilégier aussi, mettre en avance donc, tout ce qui est entrée naturelle des éléments nutritifs, entre autres... Là, en fait, je me permets de mettre un peu l'accent sur l'azote.
L'azote,
et
voilà.
Dans ce cas-là, c'est pas toutes les espèces végétales qui sont capables de fixer cet azote.
Alors, pourquoi l'azote est important déjà pour faire pousser des plantes sur...
Alors,
ces sols?
En fait, si je reviens un peu en arrière, la source principale de l'azote reste quand même l'atmosphère.
Oui.
Et les plantes toutes seules, elles sont incapables d'utiliser cet élément.
Oui.
Et c'est seulement grâce aux bactéries, en fait, fixatrices d'azote,
oui,
en s'associant avec un certain nombre d'espèces, donc de la famille des légumineuses.
Oui, par exemple, ça peut être quoi comme les légumineuses?
Légumineuses, en fait, qu'on connaît, qu'on mange, il y a les lentilles, pois chiches. Mais il y a d'autres légumineuses qui sont sauvages. Au sein du laboratoire, on a utilisé pour une ancienne mine une légumineuse qui s'appelle Antilis.
Oui. C'est une plante qui pousse localement. Hein.
Exactement, ouais. Ouais. Donc qui a un grand intérêt dans la remédiation et la remise en état du site parce qu'elle est très adaptée aux conditions extrêmes de pollution métallique.
D'accord.
Et du coup, en fait, l'interaction entre ces bactéries fixatrices d'azote et la plante forme une sorte de boule.
Qu'on appelle les nodules. Hein,
exactement.
C'est ça.
Donc au niveau des racines ou au niveau des tiges, appelées donc nodules ou nodosités. Et à l'intérieur de cette réserve, les micro-organismes transforment l'azote atmosphérique en une forme qui devient assimilable par la plante.
D'accord, donc ils ont besoin l'un l'autre, en fait, les micro-organismes.
Ouais.
Ils sont interdépendants. Quoi.
Exactement, parce qu'en fait, en contrepartie, la plante, elle fournit par exemple les sucres et des substances carbonées aux micro-organismes pour qu'eux, ils continuent à faire leur travail et aussi fournir l'azote à la plante.
Donc ces nodosités, ces petites boules où travaillent les micro-organismes, en fait, qui se forment sur la plante, c'est sur les racines des plantes?
En fait, il y a plusieurs possibilités, surtout au niveau des racines, mais il y a aussi des espèces qui sont capables de former des nodules au niveau des tiges.
Oui. Oui, c'est pas grave, vous avez donné un petit coup dans le micro, mais c'est pas grave. Alors, au niveau des tiges. Alors, du coup, cet azote, pourquoi est-ce qu'il est important, en fait, pour fertiliser les sols?
Alors, en fait, il permet un apport des éléments nutritifs, donc qui sont très importants à la croissance des plantes. Donc, il rentre dans certes, dans un premier temps, donc pour améliorer la croissance, pour accélérer, mais aussi pour augmenter. Si on prend des cultures maraîchères ou si je continue dans l'exemple des lentilles ou petits pois ou pois chiches, c'est pour aussi augmenter et améliorer le rendement.
Oui, d'accord.
Donc, le fait d'enrichir le sol en cet élément, donc, favoriser dans un premier temps, certes, donc, l'amélioration du rendement du produit en fait, cultivé, mais aussi, c'est aussi l'enrichissement de l'azote dans le sol qui va favoriser à d'autres espèces comme les graminées de se trouver un milieu favorable pour bien se développer.
Parce qu'en fait, du coup, les autres plantes vont se nourrir de cet azote, en
exactement.
Quelque sorte.
Hein,
c'est ce qui va se passer.
Exactement.
Donc, du coup, il y a les graminées qui, à ce moment-là, oui. entrent en jeu.
Exactement.
Alors, pour justement commencer à reconstituer une vie végétale, donc vous associez ces plantes légumineuses avec des graminées.
Exactement. Donc là, c'est vraiment le projet Simital au niveau de, en fait, d'une ancienne mine située dans le Gard, à Saint-Laurent-le-Minier.
Oui.
Et le but, c'était vraiment d'associer ces légumineuses avec des graminées. Et dans ce cas-là, la légumineuse va fournir donc, de l'azote et enrichir le sol en azote que les légumineuses vont l'utiliser pour favoriser un bon recouvrement et un meilleur recouvrement du sol.
D'accord. Alors, si je comprends bien, en fait, les légumineuses, elles vont, lorsqu'elles vont mourir, elles vont dégager cet azote ?
Oui, exactement.
Et du coup, les graminées vont pouvoir
elles
utiliser
vont en profiter,
cet azote
exactement.
Pour pousser. Oui. Et du coup, quel est l'intérêt ensuite de la présence des graminées ? Ça va faire, pourquoi ça reconstitue un sol progressivement ?
Alors, en fait, c'est l'utilisation des espèces pérennes. Donc, c'est vraiment favoriser un aspect vert toute l'année.
D'accord.
Et entre autres, aussi, il y a l'enrichissement du sol en matière organique. Qui vient, en fait, c'est une régénération naturelle du sol en enrichissement de matière organique par décomposition, par exemple,
des plantes.
Feuilles.
Oui.
Voilà,
ouais.
Exactement.
D'accord.
Ouais.
Et donc du coup, en fait, ces graminées, pour qu'on comprenne bien aussi, c'est des, on appelle graminées, c'est des grandes, enfin, c'est des herbes en fait. Hein,
oui, c'est des herbes comme
sorte,
la fétuque.
D'accord.
C'est du gazon en fait. Voilà. Et après, l'avantage, c'est qu'ils sont, en fait, ils sont pluriannuels, voire pérennes.
Donc il y a plusieurs cycles en fait.
Exactement.
Hein, c'est ça.
Ouais.
D'accord. Et ensuite, donc la vie attire la vie, j'ai envie de dire. Donc il y a des insectes qui
oui.
arrivent, et donc il y a toute une vie qui se reconstitue progressivement.
Exactement. Exactement.
C'est ça. Et alors, au bout de combien de temps, c'est ça qu'on veut savoir aussi, du coup moi, vous avez montré des images, donc du coup, au début, on voit un sol où il n'y a rien, et puis quelques mois après, c'est ouvert, c'est une prairie, quoi.
Oui, oui. Après, voilà, une fois que le substrat, on va dire, a été étudié, et un sol fertile a été élaboré au sein du laboratoire, et confirmé oui. par des tests en serre, en utilisant plusieurs en fait, mélanges, on passe à l'étape essai au champ. Et là, en fait, on applique ce qui a été trouvé au sein du laboratoire. Donc, après, au bout de combien de temps on a, on va dire, cette barrière verte ?
Oui.
C'est tout dépend, je dirais, de l'état initial du sol
oui.
et de la contamination. Mais ça peut varier de quelques mois. L'exemple que vous avez en fait vu au sein
sur
du laboratoire,
mine,
c'était au bout de 7 mois, par exemple, on a obtenu un champ bien vert et une prairie verte.
D'accord. Donc ensuite, on n'a plus besoin d'intervenir en théorie.
Oui, c'est l'avantage.
Donc c'est assez efficace.
C'est vraiment laisser la nature se faire d'elle-même après.
Et du coup, vous êtes revenu sur ces sites pour voir la qualité
oui.
du sol.
Exactement. En fait, ouais. le but après, c'est pas intervenir pour apporter ou pour corriger ou pour replanter. Le but, si on intervient, c'est pour suivre. Pour être sûr que les espèces sont bien présentes, que la vie dans le sol, elle est bien présente aussi.
Oui.
Et comment ça se passe ? C'est par des prélèvements également des échantillons. Pour contrôler, par rapport à l'état initial, l'évolution.
Alors, dans le cas de ces sols qui sont... dans le cas des sols qui sont concernés par des extractions minières, mm-hmm. On avait des sols pollués quand même aux métaux,
oui.
Parfois aux métaux lourds. Est-ce qu'on arrive à dépolluer plus ou moins ou atténuer la pollution avec cette intervention ?
Alors, je dirais que, de nouveau, en fait, tout dépend du niveau de pollution.
Oui.
Donc, la dépollution des anciens sites miniers, je ne dis pas qu'elle est impossible, mais elle reste
très difficile.
Voilà, très oui. difficile. Et au niveau de ces sites, quand même, il y a la contrainte de l'érosion aussi en plus, donc éolienne
oui.
et hydrique.
Oui.
Et c'est la santé humaine qui est en danger. Du coup, le but, c'est accélérer dans un premier temps, de limiter cette érosion pour... éviter l'envol de poussière
ou
en fait avant de dépolluer.
D'accord.
Ensuite, donc vient le choix des espèces végétales. Il y en a qui vont éviter l'absorption de ces métaux, c'est-à-dire ils vont garder les métaux dans le sol.
Oui.
Et avec la décomposition des feuilles qui vont se transformer en matière organique, ils vont complexer ces métaux, c'est-à-dire ils vont devenir moins disponibles.
D'accord.
Et du coup, c'est une façon naturelle, du coup, en fait, une diminution aussi
de
la pollution sans dépolluer. Parce que la dépollution aussi, il y a des recherches scientifiques qui se sont basées sur l'utilisation des plantes qui accumulent, en fait, qui extraient
oui,
au maximum
ça, oui.
de végétaux.
Oui, et après, il faut les récolter, ces végétaux.
Après, voilà. Après, l'autre inconvénient, c'est qu'il faut en produire plus beaucoup.
Oui.
Et les récolter pour les traiter hors sol.
Ah, ouais, c'est ça, d'accord.
Donc, le temps de traitement devient très compliqué très lent.
Donc du coup, oui, bon, c'est des situations qui sont complexes à aborder, c'est des sols qui sont pollués, c'est difficile de les dépolluer, donc du coup il n'est pas question sur ces sols de faire pousser des plantes qui vont être destinées à l'alimentation humaine, voire animale même.
Ouais, au niveau des anciens sites miniers, c'est pas bien, on va dire, par rapport à l'agriculture ou par rapport à la santé humaine.
Oui.
Le but, c'est pas de cultiver des espèces maraîchères, par exemple. Le but, c'est vraiment de couvrir le sol
oui.
avec des espèces qui ne vont pas être mangées par les animaux.
C'est ça.
C'est vraiment de recréer une diversité naturelle avec une intégration paysagère. Sans forcément passer par l'étape production agricole.
Oui, d'accord. Mais par contre, ces méthodes que vous utilisez, elles peuvent être utilisées dans le cas, par exemple, de sol agricole, enfin de
Exactement.
Régénération de sol agricole.
Exactement.
Alors notamment, le laboratoire, je crois, intervient dans des pays en voie de développement. Enfin,
oui.
Et du coup, vous pouvez mettre à disposition, par exemple, de petits paysans, ces méthodes pour faire pousser des légumineuses. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui,
peut-être
on a vraiment pris l'exemple, on va dire, du cas extrême, c'est la pollution métallique. Mais pour les d'autres sites perturbés liés vraiment, par exemple, à l'érosion ou la salinité,
oui.
là, ça devient très, très intéressant, l'utilisation de ces légumineuses avec les micro-organismes pour tout ce qui est reconstruction de la fertilité du sol.
Oui.
Et après, donc, cultiver ces champs pour pousser en fait des céréales par exemple ou des cultures fourragères. Et le laboratoire des symbioses tropicales et méditerranéennes, il intervient dans plusieurs pays du sud, entre autres Sénégal, Maghreb aussi par exemple, et des résultats très très encourageants, intéressants aussi sont obtenus.
Merci Souhir Soussou.
Merci.
Pour cette émission et voilà vos activités qui sont extrêmement intéressantes et voilà, du coup on l'a compris, il faut prendre soin des sols.
Oui.
Hein, c'est important, c'est ce qui nous permet notamment de nous nourrir, mais pas que.
Exactement. Merci beaucoup.
Merci.